Il est 17h sur Radio Orient. Bonsoir à tous. Votre rendez-vous d'information, Loïc Barrière. Au sommaire de ce point d'actualité, la Turquie est prête à aider la Syrie dans son opération contre les combattants kurdes à Alep, une opération condamnée par Israël. Lors de la conférence annuelle des ambassadeurs, Emmanuel Macron a estimé que les États-Unis s'affranchissent des règles internationales. La tempête Goretti va déferler sur le nord de la France dans la soirée. Météo France lance une alerte orange pour une trentaine de départements. La Manche est placée en vigilance rouge. Enfin, dans notre dossier du jour, nous ferons le point sur la contestation en Iran avec Thierry Coville, chercheur à l'IRIS, et bien sûr votre rendez-vous avec la CAN. À Gaza, la défense civile annonce la mort de 7 personnes, dont 4 enfants, dans des frappes israéliennes. Selon cette source citée par l'AFP, ces personnes sont mortes dans des incidents distincts, à la fois dans le sud et le nord de la bande de Gaza. L'armée libanaise dit avoir achevé la première phase de son plan pour le désarmement du Hezbollah, un plan qui couvre la région entre la frontière israélienne et le fleuve Litanie. Israël a réagi en affirmant que les efforts du Liban pour désarmer le Hezbollah sont loin d'être suffisants. L'armée syrienne a bombardé aujourd'hui les quartiers kurdes d'Alep après avoir autorisé les civils à évacuer la zone. Les affrontements ont éclaté il y a 3 jours. Dans la région, la Turquie se dit prête à intervenir aux côtés du pouvoir syrien. Pour sa part, Israël condamne ce qu'il présente comme des attaques syriennes contre la minorité kurde d'Alep. En Iran, la mort d'un policier poignardé pendant des troubles près de Téhéran. Par ailleurs, la police a fait usage de gaz lacrymogène, notamment dans les villes de Kerman et Tonekabon. Reza Pahlavi, fils de l'ancien Shah d'Iran et figure de l'opposition en exil, appelle à 2 nouvelles manifestations ce soir. Météo France a placé le département de la Manche en vigilance rouge ce soir pour vent violent en raison du passage de la tempête Goretti, une tempête qui entraînera des rafales pouvant atteindre 160 km/h sur le littoral. 32 départements du nord-ouest sont en vigilance orange, une alerte qui concerne notamment l'Île-de-France. En région parisienne, les rafales attendues seront de l'ordre de 90 à 100 km/h, selon Météo France, une tempête qui va toucher par ailleurs une partie de l'Europe. Ils sont venus en tracteur au pied de la Tour Eiffel et de l'Arc de Triomphe. Les agriculteurs en colère ont manifesté aujourd'hui à Paris contre la signature d'un accord commercial entre l'Union européenne et les pays latino-américains du Mercosur. La Russie a libéré le chercheur français Laurent Vinatier, rentré en France aujourd'hui. Il était emprisonné depuis juin 2024. En échange, Paris a libéré un basketteur russe détenu en France. Enfin, quelques mois après le décès de son fils Ziad Rahbani, la chanteuse libanaise Fairouz vient de perdre un deuxième fils, Ali Rahbani. C'est ce qu'annonce la presse libanaise. Né en 1958, il avait été frappé par une méningite dans son enfance, une maladie qui l'avait lourdement handicapé. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous d'information. Dans quelques instants, le dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, place au dossier du jour. Dans son discours annuel devant les ambassadeurs français, Emmanuel Macron a dénoncé le nouveau colonialisme et le nouvel impérialisme dans les relations internationales. Le président français a notamment visé la politique étrangère de Donald Trump, qui selon lui se détourne progressivement de certains alliés et s'affranchit des règles internationales. On écoute un extrait du discours d'Emmanuel Macron.
Ce que je disais l'année dernière sur l'international réactionnaire reste vrai. Et je crois même qu'il y a aujourd'hui un certain assumé de recolonisation. Et au fond, nous nous sommes pris dans un espace du jeu très étonnant où nous, Français européens, nous subissons des discours anticoloniaux qui ne correspondent plus à des réalités, à notre pratique. Et nous subissons une agressivité néocoloniale de certains. Mauvaise situation, pourrait-on dire. Je crois que si nous montrons de la constance, de la détermination et de l'action, elle peut être faire beaucoup d'endurance. Dans ce contexte, je pense qu'il y a deux comportements qui ne nous correspondent pas. C'est-à-dire face à ceux qui voudraient voir revenir la loi du plus fort, désinhibée, les suivre bêtement, ce n'est pas notre intérêt. Ça, c'est le choix de la vassalisation heureuse, ce n'est pas le nôtre. Ça ne correspond pas ni aux intérêts, ni aux valeurs de la France et de l'Europe. De l'autre, il y a un choix aussi qui pourrait être tentant, qui est celui de dire, qui est le choix moral, de dire on n'y peut plus rien, mais on va continuer de dire ce qui est bon. C'est le choix de l'impuissance, ça n'est pas non plus le nôtre. Le seul qui me semble tenable, possible, c'est d'assumer que nous sommes dans un moment très difficile de l'ordre du monde, qui se dérégule, la loi du plus fort cherche à s'imposer, ou le fragiliser, mais au fond de se dire que nous sommes bien plus forts que beaucoup ne le croient, si nous savons nous unir davantage, et que le cœur de notre action, c'est de continuer à nous renforcer, c'est d'avoir plus de logique de puissance pour la France et pour l'Europe, c'est d'assumer de défendre complètement nos intérêts, et c'est de continuer à défendre notre influence partout où le multilatéralisme efficace peut être défendu.
Le président Emmanuel Macron. Le mouvement de contestation se poursuit en Iran. Les manifestations ont débuté le 28 décembre dernier. Un mouvement lié au départ à la chute de la monnaie iranienne. Des commerçants de Téhéran ont alors baissé le rideau. Mais à cette crise économique s'ajoute une défiance vis-à-vis de la classe politique. On écoute Thierry Coville, chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Iran.
Il y a un mécontentement économique, il y a un mécontentement politique, on va dire, avec un problème de confiance entre une grande partie de la population iranienne et le système politique, à tel point, j'écoutais, ça vient d'Iran, ce que je vous dis, c'est il y avait des sondages en 2021, donc avant la crise 2022, où on demandait aux Iraniens s'ils étaient proches des deux partis politiques principaux, les conservateurs et les réformateurs, il y avait la réponse, c'était moins de 10% des gens. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas voter pour eux, vous voyez, il faut faire attention. Mais vous voyez, ils ne se sentaient pas très proches d'eux. Donc là, il y a un vrai problème de confiance. Une partie des gens ne se reconnaissent plus dans le système politique. C'est pour ça que si vous fermez toutes les portes, la seule possibilité pour eux, c'est d'aller dans la rue et de crier leur mécontentement. Donc là, il y a un vrai problème de confiance. Et puis on sait, d'après, moi j'ai fait une enquête en 2014, il y a un problème de confiance. Globalement, tous les Iraniens pensent que les institutions publiques ne sont pas efficaces et sont clientélistes, pareil simplement pour certains groupes. Et on va dire, globalement, on sait qu'il y a une forte demande, plus que dans d'autres pays d'ailleurs, une forte demande de démocratie en Iran. Donc, s'il y a un manque de confiance. D'un autre côté, on sait aussi qu'il n'y a pas, vous voyez, un discours politique alternatif qui susciterait l'adhésion d'une majorité d'Iraniens. Donc on a une situation politique un peu bancale, mais c'est vrai qu'il y a un énorme problème de légitimité pour le pouvoir et de confiance entre lui et la population.
Il y a une volonté, une demande de démocratie. Est-ce que cela pourrait encourager des discours populistes qui pourraient susciter une adhésion, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pour le moment pas de discours politique alternatif?
Oui, c'est un vrai risque, en fait. À partir du moment où vous avez un vide politique, puisque les gens, il y a un problème de confiance, les gens veulent la démocratie, mais il n'y a pas un discours alternatif. Eh ben, c'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Hein. J'entends les gens, surtout ici, ouais, le régime va tomber. Mais ok, d'accord, mais est-ce que vous savez ce qui va venir après? Donc effectivement, le risque d'un discours populiste qui entraînerait l'adhésion et qui forcément, c'est pas forcément du tout démocratique, hein, on le sait bien, existe en Iran, puisqu'il y a une demande de démocratie, mais bon, il n'y a pas d'un discours alternatif. Donc effectivement, là, il y a un champ qui pourrait conduire à l'émergence de discours populistes. Ça, c'est vrai. C'est pas encore arrivé, mais on a un terrain qui pourrait être fertile pour ça.
Il est important de souligner qu'il ne s'agit pas vraiment de manifestations de masse, mais cette colère est le reflet de celle de la majorité de la société iranienne.
Alors attention, il faut être également prudent, parce qu'il n'y a pas de sondage à ce sujet, mais ce qu'on sait à peu près de l'Iran, notamment depuis, il y a ce problème de confiance, si vous voulez, on va dire qu'il y a une minorité qui soutient le régime, Donc, pour des raisons idéologiques et des raisons économiques, parce qu'ils en bénéficient sur le plan financier, vous avez une minorité qui hait le régime, qui déteste, et au milieu, en fait, ce qui fait tenir le pays, c'est la classe moyenne très instruite, urbaine, qui n'est pas contente, on vient d'en parler, de la situation économique, qui n'est pas contente de la situation politique, qui veut un état de droit et de démocratie, mais qui veut que ça se passe sans violence. Et puis, un élément qui réunit tous les Iraniens, c'est la défense de l'intégrité territoriale de l'Iran aussi, parce que il y a un élément qui pèse beaucoup sur l'Iran aujourd'hui, c'est la guerre avec Israël. Il y a le sentiment qu'Israël veut en fait un affaiblissement définitif de l'Iran. Donc il y a cette classe moyenne, elle est très nationaliste, hein, mais elle veut que le changement se fasse sans violence.
Thierry Coville, chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Iran, il répondait à François-Xavier de Calonne. Et pour tout savoir sur la CAN, nous retrouvons comme chaque jour Mounir Kamouri. Bonsoir Mounir.
Bonsoir Loïc.
Alors c'est demain que débutent les quarts de finale de cette CAN 2025. Est-ce qu'on entre enfin dans le moment de vérité de la compétition ?
Oui, clairement, parce que certaines affiches de ces quarts de finale ont déjà des allures de finale avant l'heure. Quand vous voyez le match de demain soir entre le Cameroun et le Maroc, on parle de deux géants du football africain, d'un choc chargé d'histoire, de pression, d'enjeux immenses et surtout d'un historique qui pèse lourd. En phase finale de la CAN, le Maroc n'a encore jamais battu le Cameroun. Chaque confrontation a tourné à l'avantage des Lions indomptables, souvent dans des scénarios cruels. À partir de demain, on entre dans le moment de vérité et pour le pays hôte, il ne faudra pas louper le coche car la pression est monstrueuse sur les épaules des hommes de Walid Regragui.
Et ces dernières 24 heures, Mounir, on parle d'un bras de fer à l'occasion de cette CAN. Pourquoi le Nigeria est-il au centre de ce bras de fer ?
Oui, le Nigeria vit une situation explosive. Alors que les Super Eagles réalisent jusqu'ici un parcours solide et avancent vers un quart de finale très attendu face à l'Algérie, plusieurs joueurs ont menacé de ne plus s'entraîner, voire de ne pas se rendre à Marrakech tant que leurs primes de victoire ne sont pas versées. Ces primes concernent leur succès en phase de groupe et en huitième de finale, des bonus promis par la fédération nigériane. Mais à ce stade de la compétition, rien n'aurait été encore réglé. Résultat, la tension est montée d'un cran au point d'évoquer un possible boycott. Ce serait vraiment un véritable coup de théâtre si le Nigeria déclare forfait, mais il semblerait qu'aux dernières nouvelles, tout rentre dans l'ordre selon la ministre d'État aux Finances du Nigeria.
Et enfin, pourquoi parle-t-on de 60 contraventions traitées directement dans les stades depuis le début de cette CAN 2025 ?
Parce que le Maroc a mis en place un dispositif inédit, des bureaux judiciaires au cœur même des enceintes sportives pour gérer les incidents en temps réel. C'est une nouveauté qui interroge sur la manière d'organiser la sécurité et la justice pendant une grande compétition. Je ne vous en dis pas plus car c'est précisément ce que nous allons développer dans la chronique du jour ce soir.
Merci Mounir Kamouri. On vous retrouve donc à 18h20 sur Radio Orient. C'est la fin de ce rendez-vous d'information. Excellente soirée à tous.